On va prier. Seigneur, merci. On accroche à toi, Seigneur. On ne peut pas marcher sans toi. On ne peut pas marcher dans la connaissance de le bien et le mal. On marche dans la vie éternelle. Une vie de plénitude, une vie de ressources, une vie de repos, une vie de... Wow, une vie d'édification, une vie de grandir, une vie de croître, une vie avec toi, Seigneur. Sans toi, on ne peut rien faire. Et on veut manifester toi dans ce monde. Merci, Seigneur, parce que ta parole parle. Merci parce que tu as un message pour nous ce matin. Cette semaine, nous avons besoin de boire de la source de la vie, l'eau vivante, c'est toi, Seigneur. Merci, Seigneur. Ok, ce matin, je veux parler de quelque chose d'intéressant. Surprenant, parce que des fois, on veut parler d'une chose et le Seigneur veut parler de quelque chose d'autre. On peut dire, oui, je veux avoir un sujet... Depuis longtemps, je voudrais parler, par exemple, de la marque de la bête. Mais apparemment, ce n'était pas la semaine passée ni cette semaine. Donc, je ne sais pas, mais juste de savoir. On va parler de la fin de temps, mais pas aujourd'hui. OK. Actes chapitre 9. C'est... OK. Acte chapitre 9. OK. Ici, nous avons un exemple de quelqu'un qui était complètement contre Christ et son peuple, complètement. Et c'est intéressant de voir son conversion. Nous avons Paul en train de voyager avec l'autorité de le souverain sacrificateur de Jérusalem pour chercher et pour tous les chrétiens. Nous avons un esprit comme ça dans le monde. Ce n'est pas une question de respecter l'autre et l'option de quoi? C'est de chercher, chasser et tuer. Ça, c'est un esprit qui n'a pas changé. On n'est pas dans un vacuum. On n'est pas dans un monde que les gens peuvent dire je respecte le choix, continue de faire ce que tu voudrais faire. Non, cet esprit de persécution n'est pas un esprit de tolérance. Quand on entend le mot tolérance, tout de suite, bip, quelle est la signification de le mot tolérance? Amour, respect. Donc, Paul est en train de marcher avec un groupe, il n'était pas seul, vers Damas. Sur cette route, il voit une lumière et tout le monde tombe. Il entend en train de rester debout, faible, aveugle. Il entend une voix. Verset 4, il tombe par terre et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? » Verset 5. Il répondit, « Qui es-tu, Seigneur? » Intéressant. « Seigneur, Seigneur. » Et le Seigneur dit, « je suis Jésus que tu persécutes. Il te sera dur de rejamber contre les aiguillons. » OK. Ici, nous avons c'est nécessaire d'avoir une explication. Et c'est partie de la message, donc c'est important que je clarifie ça. J'ai fait un peu de recherche hier. Je cherche pour une page. OK. Nous avons quelque chose en anglais qui s'appelle un cattle prod. Ça veut dire que c'est un outil pour piquer le bœuf. Le bœuf avec un homme, l'homme est en train de... OK. Je ne suis pas le meilleur. Est-ce que vous pouvez voir? Non? OK. Est-ce qu'on peut peut-être positionner mieux? Voilà, merci. Est-ce que ça, c'est mieux? OK. C'est bon? OK. On y va. Tu peux voir que je ne vais jamais être un artiste. Clairement. OK. Voilà, c'est... OK. Imaginez les deux bœufs ici. OK. Wow. Pas terrible, mais n'inquiète pas. OK. Donc, dans un champ, sur le terrain doit être labouré, n'est-ce pas? Pour labourer un terrain, un champ, maintenant nous avons des moyens, qu'est-ce qu'on peut dire, technologiquement plus avancés. Mais dans l'époque de Saul, l'époque de Jésus, le premier siècle, il faut labourer avec quelques bœufs. Donc deux bœufs et un homme. Le bœuf, si est-ce que nous avons vu un bœuf? Je pense que tout le monde a vu une vache, n'est-ce pas? Un bœuf, un taureau. Ils sont assez grands et musculés. Et est-ce qu'on essaie de manipuler, de diriger un bœuf? Pas facile de faire parce qu'ils sont forts. Sauf si vous avez un outil pour le faire. Ici, c'est un aiguillon de bœuf. Ça veut dire c'est quelque chose aiguisé pour... pas pour blesser, mais pour encourager le bœuf d'aller dans cette direction. Et donc, ici, Jésus est en train de dire, c'est difficile de rejambler, c'est difficile de tourner et d'attaquer. Parce que si quelqu'un fait ça à nous, si on est en train de marcher dehors, et quelqu'un fait comme ça en nous, je pense que quelqu'un va dire, ah! Et on va tourner, peut-être notre réaction ne va pas être gentille, peut-être quelqu'un va laisser, je ne sais pas, réagir fortement physiquement, on peut dire. Donc, Jésus est en train de dire, comme un bœuf, Saul, tu es en train de résister moi. Il est en train de dire, écoute, je suis Dieu. Je suis le Tout-Puissant, je suis en train de diriger dans une direction. Combien de temps que tu vas résister contre moi? C'est ça. Ça, c'est la clé. Il dit, en fait, c'est dur. Si tu tournes et fais comme ça, tu vas être plus blessé. Donc, toute la réaction va être en veine. Et en plus, c'est seulement toi qui vas souffrir. C'est pas lui, c'est le bœuf qui va être plus blessé. Et comme pour le bœuf, Dieu est en train de dire, la seule personne qui va être blessée, c'est toi. Pourquoi? Parce que pour tous les chrétiens que tu vas tuer, ils sont avec moi au ciel. Ils vont être des martyrs. Pour chaque martyr, il va être 10+. Chaque fois, tu vas martyriser quelqu'un, les autres vont arriver. Parce que la semence de l'Église, je crois que c'est Richard Wurmbrand de Roumanie, un pasteur en Roumanie, a dit, la semence de l'Église est le sang des martyrs. Ça veut dire le plus que quelqu'un persécute une Église, c'est comme avec les mauvaises herbes. On essaie de enlever et pou partout dans le jardin plus. Donc, ça veut dire qu'on ne peut pas résister Dieu. On ne peut pas résister Dieu. Ni on ne peut pas résister les œuvres de Dieu. Et on ne peut pas résister la vérité. Personne ne peut faire quelque chose contre la vérité. Ce monde pense qu'ils sont en train de faire ça. Faux, il y a un jour de jugement, bientôt. Et Dieu dit, je suis totalement en contrôle. Donc, juste pour entrer dans ça, pour nous, il y a des cinq, peut-être cinq scénarios, cinq exemples dans la Bible de quelque chose qui passe comme ça. Et juste avant ça, juste pour noter, en Actes chapitre 6, si je ne trompe pas, nous avons ce caractère, Nicodème. Est-ce que c'est cinq ou... Nicodème, en fait, Gamaliel. Gamaliel a dit, devant le Sanhédrin, après les disciples Jean et Pierre sont pris devant eux, ils ont dit, on va tuer ces chrétiens. Qu'est-ce que Gamaliel, un pharisien, le Sanhédrin, le souverain sacrificateur, c'est un sadducé dans ce temps, un libéral. On peut dire pharisien, fondamental, extrême, zèle, mais pas avec la vie de Dieu. Sadducéen, quelqu'un qui était plutôt libéral, qui ne croit pas en fait dans la vie après. Donc, pour eux, la Bible n'était pas notre Bible, c'était une interprétation pour eux. Entre les deux, il n'y a rien en fait. Gamaliel a dit, écoute, il fait une liste, il fait deux exemples. Un homme qui est venu, il a pris 400 hommes avec lui, il a résisté, et après il est mort et les hommes dispersés. Quelqu'un d'autre est venu, même chose. Et il a résumé son argumentation pour dire, si ces hommes, Jean et Pierre, Simon Pierre, sont de Dieu, on ne peut pas empêcher. Si c'est seulement origine en homme, on va laisser, ça va disparaître sans notre effort. Ça veut dire, si c'était de homme, rien ne va passer, ce n'est pas éternel. Si c'est de Dieu, personne ne peut résister. Et il a dit, parce que si on résiste Dieu, on est en train de lutter contre Dieu et on ne veut pas faire ça. C'est intéressant de savoir ça. Et donc, on doit être fait attention nous-mêmes. Est-ce qu'on est en train de lutter contre Dieu? Et le premier, on va parler. Dieu va faire ce qu'il veut. Ce que Dieu veut faire, il va le faire. Ça, c'est en Jonas. Jonas, je vais vite donner un résumé de la vie de Jonas. Prophète, Ancien Testament, un court livre sur sa vie, et c'est juste sur le ministère, appelé pour aller, et en fait à Nineveh, un ennemi, archi-ennemi d'Israël, fortement contre Israël. Et donc, quand Jonas a entendu qu'il doit déplacer combien de centaines de kilomètres pour visiter cette ville et prêcher un message de repentance, il a dit, j'en ai marre, je me barre. Il a pris le bateau pour Espagne. Espagne, c'est joli, mais ce n'était pas la vision de Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie? Sur le bateau, un orage. Les hommes affreux, ils ont dit, qu'est-ce que va passer? Terriblement avec le peur. Ils ont arrivé, Jonas en train de coucher. Jonas, qu'est-ce que se passe? Il a dit, c'est moi, je suis fautif, jette-moi dehors dans la mer et laisse-vous retourner tranquillement sans problème. Finalement, après la résistance, en bref, après trois jours noués dans un poisson, amené à Nineveh pour prêcher le message. Il a prêché le message, il est resté dehors. Ok, qu'est-ce qui va passer? Est-ce que le Seigneur va détruire la ville? J'espère. Il a accompli la volonté de Dieu, mais pas avec son cœur. Et on peut dire, quelle est l'application de ça? Finalement, dans nos vies, Dieu va accomplir sa volonté. Il va accomplir. Il a dit, je bâtis mon église. Est-ce qu'il a besoin de moi de bâtir son église? Non. Il veut que je participe, mais finalement, il peut le faire sans moi. Il y a des choses dans la vie que Dieu veut en être participant. Parce qu'on est dans les derniers jours. Bientôt, il va venir pour chercher son église. Mais je peux marcher à côté de l'œuvre de Dieu. Est-ce que ça empêche Dieu? Oui et non. Oui, pourquoi? Parce que Dieu est en train de faire une œuvre en moi. Chacun de nous, il est en train de faire une œuvre de sanctification. En fait, il est en train de faire ça pour amener moi ici, point A, à point B, sanctification ultime, et partir. Et entre les deux points, il y a des situations dans ma vie. Il va m'utiliser pour apprendre, comme avec Jonas, de servir les autres, et en même temps, il va changer mon cœur, il va changer mon âme, il va transformer mes pensées. Et je dois accepter ça. Est-ce que Dieu, dans les périodes de ma vie, est en train de m'utiliser? Est-ce qu'il peut toujours faire la même chose, mais sans moi? Oui, il peut. Donc, en bref, il est limité de travail en moi. Il n'est pas limité de travail d'accomplir sa volonté ailleurs. Je suis le perdant. Jonas, c'est dans ma volonté que tu viens en train de crier, de résister, mais je vais amener jusqu'à Nineveh et tu vas accomplir la volonté, ma volonté, et les gens vont être, qu'est-ce qu'on peut dire, dans une repentance, une période de grâce et pas de destruction. Jonas, la grande chose que je voudrais faire dans ton cœur est que tu peux avoir la même compassion que j'ai pour les autres. Malgré sont les ennemis le plus pire, j'ai miséricorde sur eux. Et donc Jonas a finalement fait la volonté de Dieu. Et Dieu est en train de toujours enseigner Jonas dehors de la ville après il a accompli la volonté. Après, il a accompli cette mission. Et la clé pour nous, dans cette première partie, est-ce que je vais accepter d'entrer dans ce que Dieu veut pour ma vie avec un plein cœur? Ou est-ce que je vais juste tourner dans un rond? Et peut-être, dans le cas de Jonas, c'était la souveraineté de Dieu. Sa volonté souveraine est d'accomplir des choses, il va pousser les gens à le faire. Peut-être certains vont résister, mais il va finir son œuvre avec nous ou sans nous. Avec Jonas, il a pris, mais Jonas, dans son cœur, n'était pas avec Dieu. Mais finalement, Dieu a accompli ce qu'il veut. Pour nous, ce n'est pas peut-être la même chose de Jonas, mais on peut dire, non, je ne préfère pas d'entrer dans ça. Et le Seigneur peut dire, écoute, je vais finir la sanctification dans ta vie, mais tu laisses pour 5 ans de faire ce que tu voudrais faire, et pour les derniers 3 ans de ta vie, tu vas expérimenter une épreuve dans ta vie qui va amener à une maturité dans ta vie. Mais je voulais te préférer que tu peux passer 50 ans dans ce processus. Et pas 3 ans de souffrance, pas 3 ans de quelque chose beaucoup plus dur et intense. Et donc, pour nous, l'application est d'accepter ce que le Seigneur présente devant nous aujourd'hui. Parce que finalement, on va passer par les épreuves, maintenant ou après. On va passer par les tests, maintenant ou après. C'est un peu dur de dire ça, mais de savoir que la vie chrétienne et une vie de bénédiction, de joie, de communion, c'est aussi une vie beaucoup plus difficile sur la terre. Heureusement, on n'est pas dans les pieds de Jérémie. Les gens n'ont pas écouté, il a pleuré, finalement il est en Égypte avec les gens qui n'écoutent pas. Sa vie était un extrême. On est heureux, on n'est pas seul, on est une assemblée, il y a des autres chrétiens partout. Juste de savoir pour nos vies, le Seigneur veut faire des choses, il va accomplir, mais est-ce qu'on est avec lui? Est-ce qu'on va profiter de cette occasion? La deuxième chose, et ça c'est une façon de résister Dieu, d'être contre Dieu. Pierre, Simon Pierre, Jean chapitre 21. Ok, avant, 3 ans en arrière, Luc chapitre 5, verset 4 à 10. Ok, qu'est-ce qu'on peut dire? Une récolte extraordinaire des poissons. Donc, tous les poissons, après une nuit de rien, de pêcher, et Simon-Pierre, Jésus dit, jetez le fil de cet côté. Et bouffe, tout de suite, c'était extraordinaire, un miracle. Simon-Pierre, c'est fini maintenant. Nouvelle profession, vocation, suis-moi. Tu vas être un pêcheur des hommes et pas des poissons. Jean chapitre 21, après la résurrection, après Simon-Pierre, regardez à vous Jésus ressuscité. Il est dit, j'en ai marre de ce ministère, je vais quitter, je vais retourner à la travail, mon ancien travail. Qu'est-ce qui se passe? Une nuit, rien. Jésus est venu et dit, écoute, est-ce que vous avez attrapé quelque chose? Non, on n'a pas fait. Viens. De nouveau, dans sa grâce, le Seigneur dit, viens. Quelle est l'importance? Qu'est-ce que la vérité on peut trouver pour nous-mêmes? On ne peut pas retourner dans l'arrière. On est maintenant une nouvelle création en Christ. C'est fini, le passé est fini. C'est maintenant. Prendre les opportunités. Si on ne fait pas, on est en train de résister Dieu. Parce que finalement, dans un cas, le Saint-Esprit est en train de convaincre, Jean chapitre 14, verset 6, je pense, sa ministère est de convaincre. Partie de ça est de tester, de convaincre. Le monde, mais on va être convaincu aussi. Il va œuvrer en nous de dire, écoute, suis-moi, suis-moi, suis-moi. Et chaque fois qu'on résiste, on est en train de résister Dieu. Si on dit, je vais retourner en arrière, essayer de faire mes projets de le passé, le Seigneur va dire, je suis en train de résister, je suis triste et vous êtes triste aussi. Donc, deux perdants, dans deux côtés. On ne va pas profiter de le passé comme Simon-Pierre, il n'a pas profité. Et on marche côté de les opportunités du Seigneur. On perd le temps, on perd le poisson, on perd les ressources, on perd notre patience, on perd le temps. Donc, engagement, Seigneur, maintenant, qu'est-ce que tu as pour moi? Je ne suis pas capable de faire, mais je vais marcher par la foi. Ok, j'accepte de te suivre. Donc, résiste pas, retourne pas. Troisième, voyage vers rien. Actes chapitre 27, un voyage sur la mer, vers rien. Nous avons, et ça c'est intéressant pour nous de savoir, Paul maintenant doit aller à Rome. Il va être devant César, il va être devant le roi, il va être jugé. Et partie de son voyage est de passer après la bonne saison de voyager sur le Méditerranée. Donc, avec un bateau, avec le centurion romain, avec ceux qui sont les experts de navigation. Et Jésus a parlé avec Paul. Il a dit, Paul, c'était pas bien de voyager maintenant. Dis à ces gens de ne pas faire ça. Qu'est-ce que s'est passé? Ils ont décidé de faire. Ils ont dit, non, nous sommes des experts, on connaît le Méditerranée plus que toi, Paul. On ne va pas écouter. Donc, décision, voyage. Voyage, c'est comment c'est bien? C'était un souffle doux, mais après ça, un orage horrible. Et si nous pouvons rappeler de cet épisode, c'est un naufrage à la fin. Un naufrage, perd de tous les biens sur le bateau, mais les vies sauvées, bateau complètement détruit, dans les circonstances, waouh, périlleux, on peut dire, dangereux. Et la chose, on peut dire ici, est-ce que nous avons décidé de faire un projet? Est-ce que nous avons décidé de partir en voyage? Est-ce qu'on a décidé de dire, OK, ça c'est notre projet. On va payer pour le billet, on va partir. Une application plus concrète que ça. Un jour, on a décidé de sortir dans notre voiture pour passer la ville ailleurs j'oublie pas ce que on voudrait faire, le bout du voyage. Mais on a pris la voiture, on est parti pour aller ailleurs. On était bloqué dans les bouchons devant le pont de Mont Blanc. Bouché partout. C'est pas l'heure d'être bouché, mais c'était l'heure de point, on peut dire, extrême. Et la voiture commence à tourner, chauffer, et bip, 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 bip. Et on a pensé que le moteur va exploser. Donc finalement, avec notre patience complètement sortie de la voiture, la vapeur en train de sortir de nos oreilles, et aussi, je n'espère pas, mais je pense que le moteur aussi, on a retourné à la maison, on a dit, ça ne marche pas, Seigneur, ce n'était pas ta volonté. Ça, c'est une illustration. Est-ce que nous avons décidé de faire quelque chose comme ça? Est-ce qu'on était bloqué dans chaque fois on tourne, il y a quelque chose qui nous bloque et on peut dire, ah, Seigneur, pourquoi pas, pourquoi pas? Et il y a une voix d'eux qui dit, c'était pas mon plan que vous sortiez de la maison. J'ai quelque chose d'autre. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a sauté, on a perdu notre patience, on a perdu notre temps, on a peut-être perdu. On doit avoir une visite à le garage pour réparer la voiture, on ne sait pas. Mais en bref, tous ces éléments, on a profité de rien. Cette voyage, c'est le même. Ils ont décidé de faire ce voyage et Paul a dit à la fin, écoute, c'était nécessaire pour vous d'écouter ce que je voudrais dire parce que le Seigneur a dit. Mais finalement, dans sa grâce, on va être tous sauvés. Mais le bateau, pas. Tout ce qui est sur le bateau, pas. Mais vos vies, oui. Mais il faut écouter. Il faut manger aussi. Tout ça pour dire que le Seigneur a donné une deuxième chance pour ces hommes qui sont en pleine têtue, dure. C'est le même pour nous. Et en fait, on est en train de résister le Seigneur. Et le Seigneur est beaucoup plus fort et puissant que nous et il voit tous. C'est beaucoup plus facile à dire, I surrender, je soumettre, je suis soumis, Seigneur, juste conduis-moi. C'est la paix, c'est la joie. Et vous saviez peut-être le projet que nous avons, peut-être le Seigneur va faire ça à le bon moment, peut-être d'essayer de faire avec notre propre force, perdre une occasion d'avoir un moment avec le Seigneur maintenant et les ressources, la force, la sagesse pour ce projet dans le bon temps, si c'est la volonté de Dieu. Un voyage vers rien. Wow. Quatrième. Genèse chapitre 16. Abraham. Le Seigneur a dit, tu vas avoir un enfant qui va être la semence, qui va être, tu es en fait le père de toutes les nations. Promesse, enfant, génération, descendance, un pays, un terrain. Il est quelque chose de plus pour vous. Mais quelque chose d'important. Sarah et Abraham, ils ont décidé de faire quelque chose, de pousser le travail de Dieu et d'accomplir des promesses eux-mêmes. Ça veut dire, OK, on va initier, on va utiliser Agar, un serviteur, pour être la mère qui va porter un enfant avec Abraham. C'était quelque chose, on peut dire, un coutume dans cette époque. Et Dieu a dit non, mais ils ont fait. Finalement, Qu'est-ce que la signification? Nous avons Ishmael et nous avons les descendants d'Ishmael maintenant. Et nous avons les descendants par Isaac. On est deux nations en train de lutter dans le Moyen-Orient à ce moment. Donc, un grand problème. Dans la souveraineté de Dieu, il a choisi d'utiliser cette situation pour ce bien, pour sa gloire. Mais nous avons, si on peut apprendre quelque chose de cette histoire, est-ce que nous avons reçu une promesse de Dieu? Est-ce qu'on est en train de lutter de accomplir cette promesse nous-mêmes? Est-ce qu'on pense qu'avec notre intelligence, notre force, on peut faire ça? Quelle est la conséquence? 13 ans de silence entre Abraham et Dieu. Silence. Rien passé. Acte chapitre 16, à la fin, versets 11 et 12. Finalement, Acte chapitre 17, verset 1. Genèse chapitre 16, verset 15 et 16, c'est la fin de ce chapitre. Chapitre 17, verset 1. Finalement, quand Abraham était un peu plus âgé, 13 ans, le Seigneur a dit, « Ok, maintenant on peut discuter, on peut parler. » Il a perdu 13 ans. 13 ans dans la présence de Dieu. 13 ans dans sa vie. 13 ans d'avoir des complications parce que avec tout ce qu'il a fait, en fait, il a ajouté plus de complications dans sa vie et pas moins. Donc, si on essaie de compléter nous-mêmes la volonté de Dieu, premièrement, on en résiste en Dieu. Donc, Dieu ne peut rien faire avec ça pour le moment. Deuxièmement, on perd le temps. Troisièmement, il va être des complications parce qu'on essaie de faire nous-mêmes et on n'est pas Dieu, on n'est pas éternel, on n'est pas tout connaissant. On ne peut pas faire une œuvre éternelle avec nos propres mains qui ne sont pas éternelles. Si on fait avec la chair... Donc, pour nous, la bonne chose est de... Ici, quand Dieu donne une promesse, il y a une provision de rester et de faire confiance qu'au bon moment, cette promesse va être accomplie et on va avoir la joie, on va dire « Amen Seigneur, c'est pour notre bien ». Mais si on essaie de pousser l'œuvre de Dieu, on perdra ça. On perdra la communion avec Dieu aussi, on perdra la joie, on perdra la paix. Parce qu'on veut pousser Dieu dans notre temps. Et Dieu dit « Ma temps, mon temps et pas votre temps. » Il faut attendre. C'est une bonne chose. Parce que quand cette promesse est réalisée, il y a une joie. Il y a une joie. Il y a un témoignage. Parce que Dieu veut, il y a un témoignage dans cette promesse. Et dernière chose, ça c'est un peu plus sérieux. Le cinquième et dernier point, on peut dire attaquer l'église de Christ, attaquer l'église de Dieu. Paul était en train d'attaquer, et de dire c'est une secte, je vais faire tout mal contre eux. Il a fait le mal, tuer les gens. Et qu'est-ce que s'est passé à la fin? Tout était tourné bien. Mais si nous sommes avec Jésus-Christ, il est notre avocat, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'il intercède pour nous. Ça veut dire dans son ministère d'advocacy, devant l'accusation du diable, c'est Zacharie chapitre 3, Josué avec le diable et l'ange du Seigneur. Et l'ange du Seigneur dit non. L'accusation du diable, rien. Il est un avocat pour nous. Il va dire devant le Père, c'était faux. Ils sont mes enfants. Ils sont habillés avec la justice. Le moment que nous tournons contre Dieu et commence à avoir une amertume peut-être contre l'Église, on est maintenant toujours enfant de Dieu. Dans notre position. Ça, jamais change. Mais le moment où on commence à trouver de critiquer une église, je ne parle pas de l'église de la grâce, ou l'église de réveil, ou l'église de Montbrion, ou l'église de... Non, je parle de les églises en général. Le moment qu'on peut dire, non, on commence à accuser, attaquer, critiquer. On est maintenant dans une situation qu'on est contre Dieu. Parce qu'on est contre l'œuvre de Dieu. On est en train d'attaquer Jésus-Christ. Parce que quand Paul a dit, qui es-toi, Seigneur, il a dit, je suis Jésus, tu me persécutes. Personnellement. Donc pour nous, de savoir, on est blessé, on est triste, les églises ne sont pas parfaites, il y a des choses qui passent. Mais de jamais de nous mettre dans une situation d'être dans un esprit comme le diable qui accuse, qui est critique, qui cherche de détruire. Parce que finalement, qui va être détruit? Ma vie. Si je suis dans la place de ça, je suis un juge. Et je me place comme je suis le Tout-Puissant et je connais tout. Je ne suis pas Dieu. Je ne peux pas avoir cette position. Personne ne peut être le juge sauf lui-même. Et donc, d'attaquer l'Église, c'est vrai pour les non-croyants. Il y a certains qui, bien sûr, attaquent l'Église. Ils attaquent, ils cherchent, ils disent on n'est pas tolérant, etc. On n'est pas l'amour, etc. Laisse ces personnes. Dieu va occuper avec eux. Ils sauvent ou ils mise pas. Tout ce qui attaque l'Église attaque Dieu. On est le prunai de Dieu. Ça veut dire le petit garçon, ça veut dire cette partie de l'œil le plus sensible. Dieu a dit à Israël, vous êtes le prunai de moi. Vous êtes le petit partie de l'œil de moi. Donc, quand quelqu'un attaque Israël, dans l'Ancien Testament, il attaque Dieu. C'est comme il prend un doigt et dans l'œil. Quelqu'un qui fait ça aujourd'hui, qui attaque l'Église, qui attaque un enfant de Dieu, qui nous attaque, qui dit « Wow, vous êtes n'importe quoi » et en train de faire ça avec Dieu. Combien de fois qu'on pense que Dieu va accepter ça? Est-ce que Dieu va réagir aussi? Il ne va pas réagir, mais il va opérer, il va être clairement en action. Il ne va pas laisser lui-même d'être en permanence comme ça. Un jour, Dieu va finalement juger. On est enfant de Dieu. Et on est dans la même direction. On est dans le même courant. Comme la mer. On est dans l'Église avec Christ en train de flotter, en train de partir dans cette direction. Le monde, cette direction. On n'est pas parti de ce monde. Quelle est l'application? Simplement, en tout ce qu'on peut vivre, de toujours être constant dans nos cœurs, de ne pas être contre l'Église en général. Je dis qu'il y a des églises, bien sûr, qui ne sont pas les églises. Ils sont les affaires qui cherchent l'argent. Certains qui sont là de manipuler les gens. C'est vrai. Mais je ne cherche pas d'attaquer, je laisse Dieu d'occuper avec eux. Et moi, j'occupe avec mon Église, j'occupe d'aider les autres de conduire. Tout ça pour dire, on est maintenant dans une place avec le Seigneur. Toujours de dire, ok Seigneur, ce que tu veux pas, ce que je veux. Je ne veux pas être en résistance contre toi, je veux être en marche avec toi. Je vais être un ami de Dieu. Je vais être de vivre toutes les opportunités qu'il donne. Voilà. Donc le Seigneur est avec nous. Et il veut qu'on marche avec lui. Il dit, marche avec moi. Ne perds pas le temps. Comme avec le bœuf, qui est ceux qui sont le perdant qu'il fait ça? C'est le bœuf, pas lui. Si on attaque Dieu, si on est contre lui, si on résiste Dieu, qui va être ceux qui perdent? Seulement ceux qui font la résistance. Dieu est miséricord, mais on peut blesser nous-mêmes par nos actions. Ne résiste pas à l'œuvre de Dieu. C'était pour sa gloire, et c'est pour notre bien, et c'est pour les âmes. Et on est dans les derniers jours. Tout ce qu'on fait pour lui, on va recevoir des récompenses au ciel. on va être gâtés. Profitons de ça, nous tous, dans l'œuvre de cette Église, dans les moments que nous avons ensemble, le moment pour les âmes, le moment pour grandir ensemble. Que Dieu vous bénisse. Prions. Seigneur, merci pour ce matin et merci pour le temps que nous avons. On est gâtés, on est le peuple de Dieu. Ce n'est pas un message d'accusation, mais un message d'encouragement, d'exhortation, de marcher avec toi. Et merci Seigneur, tu prends soin de nous, de nos familles aussi. Tu bénis nos familles par association, tu bénis nos collègues de travail par association, chacun qui est en contact avec nous. Et tu veux que les âmes soient sauvées. Merci de prendre soin de ceux qui souffrent ce moment dans cette assemblée, ceux qui sont blessés peut-être, ceux qui sont malades. On pense à les familles Christian, Priscilla, Melinda, Thiago. On pense à Robert aussi, sa famille. Vraiment, Seigneur, guérison et restauration en santé et un moment de profiter de ta présence, Seigneur. Merci. Merci de toucher les autres aussi. Merci. Soyez glorifiés. Amen.